BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Notre invitée, c'est Marguerite Bérard, directrice de la Banque commerciale en France de BNP Paribas. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Beaucoup de questions sur BNP. D'abord, si vous êtes là, c'est que vous avez annoncé ce matin 7000 recrutements en France. Plutôt une bonne nouvelle. Et en même temps, on a vu les chiffres aussi, l'inflation. Une inflation quand même à plus de 5%. On a vu la croissance qui faiblit, ça c'est logique. Les taux d'intérêt qui remontent, donc une conjoncture qui est quand même assez perturbée, on va dire. Comment vous l'analysez en tant que banquière? Est-ce que pour vous la hausse des taux, c'est plutôt une bonne affaire? En tous les cas, si j'en crois le gouverneur de la Banque de France, il a dit c'est bon pour les banques. L'inflation, c'est bon pour les banques?
Alors, vous avez raison, on a un environnement économique qui est plus perturbé, plus sombre que ce qu'on prévoyait avant le 24 février, avant l'invasion de l'Ukraine. Concrètement, vous l'avez dit, des tensions inflationnistes qui préexistaient, mais qui sont plus fortes, une croissance qui est plus faible, un renchérissement des prix des matières premières, de l'énergie, des taux qui remontent. Donc c'est vrai que ça fait un environnement économique plus compliqué pour les entreprises, pour les particuliers. Ce qui me marque en même temps, quand je vois nos clients, c'est que, à travers notamment la demande de crédit qu'ils nous adressent, c'est qu'ils ont encore beaucoup de projets. Il y a des différences, suivant les secteurs d'activité, suivant la capacité qu'on a à répercuter ou pas les hausses de prix sur ces clients. Mais dans l'ensemble, quand même, beaucoup de projets des entreprises.
Mais si on rentre un tout petit peu, si on est un peu plus précis, quels sont les secteurs où justement il y a encore de l'investissement et là où il y en a moins? Où est-ce que vous voyez qu'on appuie sur la pédale et là où on freine?
On voit des investissements d'abord dans toutes les régions en France et dans la plupart des secteurs. On voit des secteurs qui sont plus impactés. On pense au bâtiment, on pense aussi à l'hôtellerie-restauration, plutôt aussi par des difficultés de recrutement. Le pays étant plein emploi ou quasi plein emploi, il faut remonter à 2007-2008 pour qu'on ait un taux de chômage aussi bas en France. Donc on a des secteurs qui ont aussi des difficultés à recruter. Ça pèse effectivement sur leur perspective.
Mais donc pour l'instant, ce retournement de conjoncture qui est dû en partie, ou enfin même largement, à cette guerre en Ukraine, les conséquences que ça a sur le plan énergétique, sur la croissance, vous ne voyez pas d'impact?
Alors, guerre en Ukraine, et puis il faut ajouter aussi ce qui se passe en Chine.
Bien sûr, évidemment.
Les clients nous en parlent aussi beaucoup, ça les affecte bien entendu. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même qu'il y a, on le sent d'ailleurs dans le moral des chefs d'entreprise, une bonne résistance, une bonne résilience, et des projets, et des entreprises qui s'adaptent. C'est ça qui me marque beaucoup, des entreprises qui diversifient leur chaîne d'approvisionnement, qui font évoluer leur modèle d'affaires, qui relocalisent des productions en France.
Vous en voyez aussi... Parce que là, il y en a quelques-uns, on en parlera avec Pascal Gani, le président de Business France.
Ouais.
On en voit, mais enfin, on ne peut pas dire qu'on croule sur les projets de relocalisation.
Non, on en voit, et ça tient aussi à la préoccupation qu'ont les entreprises de maîtriser leurs approvisionnements et leurs chaînes d'approvisionnement. Le sujet de l'indépendance et d'une forme d'autonomie,
de souveraineté,
notamment est un sujet très important pour les entreprises aujourd'hui. En tout cas, on le voit dans les échanges qu'on a avec nos clients.
Et est-ce que vous voyez sur le terme de remboursement de PGE, est-ce que vous avez des difficultés? C'est un peu la question récurrente que je vous pose, mais parce que ça y est maintenant, on rentre. Mais non, mais au contraire, tant mieux.
On n'en voit pas aujourd'hui.
Non.
On n'en voit pas aujourd'hui. On n'a pas de clients qui nous disent qu'ils ont des difficultés à faire face à ces échéances. Certains l'ont d'ailleurs déjà intégralement remboursé et d'autres l'amortissent selon les plans convenus. Donc pas de difficultés.
Vous en aviez délivré combien en France ?
Pardon ?
De PGE, vous en avez
dit ? Oh là là, on en a fait pour un certain nombre de dizaines de milliers. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les quelques... dans les quelques semaines de mars 2020, tout le printemps 2020, on a fait l'équivalent d'une année de crédit en quelques mois.
C'est pour savoir, le taux de remboursement, c'est 99%, c'est juste pour avoir envoyé...
Le taux de remboursement, c'est une minorité des PGE qui sont aujourd'hui intégralement remboursés. En revanche, beaucoup ont commencé déjà à s'amortir selon les échéanciers convenus.
Et vous n'avez pas d'entreprise qui vous demande de décaler l'échéancier, justement, qui est convenu?
Non.
Non, mais ça veut dire quand même il y a une bonne santé des entreprises. C'est
il y a une vraie solidité. Ouais.
Est-ce que vous avez déjà remonté, parce qu'à partir de demain, il y a beaucoup de choses, le 1er juin, il y a beaucoup de choses qui changent. Évidemment, la hausse des taux d'intérêt elle est là. Est-ce que vous avez augmenté le taux d'emprunt chez BNP Paribas? Il est passé à combien? Il s'est augmenté de combien?
Alors, ça dépend de quel type de crédit on parle. Hein, si vous êtes sur le crédit...
Mais j'étais sur les entreprises. Je reste sur les entreprises, bien sûr.
Sur les autres entreprises, écoutez, ça dépend des maturités, ça dépend des secteurs, des catégories d'entreprises, etc.
Mais les taux ont monté.
Les taux augmentent, mais il faut juste préciser quelque chose. C'est que il y a le taux nominal, c'est le taux facial, et puis il y a le taux d'intérêt réel. Et en période d'inflation, parce qu'on a, on a perdu un peu l'habitude de raisonner comme ça, mais en période d'inflation, le taux d'intérêt réel, le coût de l'argent aujourd'hui en France, il reste extraordinairement bas et accessible. Donc, je pense que c'est, il faut l'avoir à l'esprit, c'est très important.
Avec une inflation à 5%, plus de 5%, c'est clair. Pour les particuliers, donc demain, il y a assurance vie, prêt immobilier, droit au compte bancaire, frais de gestion plus transparents, il y a beaucoup de choses qui se passent à partir de demain. Est-ce que les frais de gestion ont augmenté chez BNP Paribas, chez vous, Marguerite Bérard?
Alors, nos tarifs, vous prenez par exemple les frais de tenue de compte, les frais de tenue de compte, ils n'ont pas augmenté chez nous depuis 2016. Il y a certaines catégories de frais qui ont pu augmenter, souvent lorsqu'on a des alternatives, par exemple digitales et autonomes pour nos clients. Donc là, on encourage nos clients à faire les choses par eux-mêmes. Mais sinon, on augmente plutôt nos tarifs lorsque on apporte des services en plus et de la valeur en plus pour nos clients.
Oui. Sur les prêts immobiliers, est-ce que là, vous les encouragez toujours ou vous trouvez qu'effectivement, la valorisation se tasse? Mais est-ce qu'avec les hausses de taux d'intérêt, est-ce que vous incitez plutôt vos clients à prendre des prêts tout de suite en disant « attention, il va y avoir une hausse des taux d'intérêt deuxième partie de 2022 » ou l'inverse?
Alors, si vous regardez par exemple le premier trimestre de cette année, hein, on a fait un volume de crédit immobilier qui est même un peu supérieur à ce qu'on faisait à la même période l'année dernière. Concrètement, Nos clients, il y a toujours une demande forte de crédit immobilier, des taux qui augmentent, mais là encore modérément, moins vite que les taux, vite que les taux du marché. Après, nous, on dit à nos clients d'être attentifs, et ce sont les critères posés également par
là, justement, on parlait du Villeroy de Gallo,
financière, c'est-à-dire voilà, il faut un taux d'effort qui est raisonnable. Hein, il ne faut pas que ça dépasse un tiers du revenu. Il ne faut pas s'endetter au-delà de 25 ans. Tout ça. Voilà, on fait les choses de telle manière que ce soit soutenable pour nos clients.
Oui, mais donc vous êtes un petit peu plus restrictif qu'auparavant.
Non, ce sont des règles qu'on a toujours appliquées et on continue à le faire.
Grosso modo, vous êtes d'accord avec le gouverneur de la Banque de France, la hausse des taux qui s'annonce, qui est déjà un petit peu là, c'est une bonne nouvelle pour les banques?
On vivait dans un environnement quand même très 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 particulier depuis 2014, parce que des taux d'intérêt négatifs, quand on y pense, même intellectuellement, c'est quand même un concept bizarre. Donc ce qui était atypique, c'est la période qu'on a vécue et dont nous sortons aujourd'hui. Après, la hausse des taux, comme tout un chacun, il faut qu'elle soit contrôlée, il faut qu'elle soit étalée dans le temps, parce que c'est jamais bon pour l'économie, c'est pas bon pour le client et pas bon pour nous d'avoir des chocs.
Pas de taux d'intérêt, de hausse de taux d'intérêt brusque en tous les cas, c'est ce que vous demandez.
C'est ce que la Banque Centrale Européenne cherche à gérer dans le temps, c'est-à-dire une remontée des taux, faire face aussi aux pressions inflationnistes, mais elle le gère dans le temps.
Vous avez déjà, pour 2021, vous avez des résultats records, plus de 9 milliards d'euros pour l'ensemble de la banque, évidemment. Donc ça va être encore plus, puisque c'est bon pour vous, la hausse des taux, ça va être encore plus en 2022. Vous allez dépasser la barre des 10 milliards?
On est pour l'instant dans le plan de marche. Vous savez qu'on a présenté notre plan stratégique à l'horizon 2025. On a annoncé qu'on devait être en mesure d'avoir une croissance régulière de nos revenus de l'ordre de 3,5%.
Ça sera 10,
de 3,5% chaque année. Et donc, on est dans le plan de marche qu'on a annoncé pour le moment.
On n'en dit surtout pas plus. À propos... vous avez une AG, une assemblée générale extrêmement mouvementée, tout comme celle de Total Energy. Est-ce que d'abord, ça vous a surpris? Et est-ce que vous comprenez quelque part d'être bousculé comme ça sur la transformation climatique parce qu'il y a urgence?
Alors,
ou vous trouvez ça insupportable?
Une assemblée générale qui a accueilli une dizaine d'activistes qui ont participé à l'assemblée générale. On est une banque qui est visible. On est une banque qui est visible parce que on est la première banque européenne de la zone euro. Et donc, il est normal dans ces cas-là qu'on ait envie de faire entendre sa voix auprès de nous. Ouais. Vous savez que sur les sujets de transition énergétique, on est extraordinairement mobilisé et depuis des années.
Oui, mais vous êtes par exemple toujours actionnaire de Total Energy.
Alors, Total est un de nos clients.
Oui.
Total est un de nos clients que nous accompagnons.
Un gros client, mais pour cause. Enfin, oui.
Au même titre que beaucoup de clients. Et Total est un client avec lequel nous avons aussi un dialogue très régulier sur sa propre évolution que nous accompagnons.
Vous trouvez qu'il va suffisamment vite ou pas assez vite ?
Écoutez, c'est une transition, c'est un chemin. Moi, je pense que c'est très important qu'on parle des grandes entreprises, des petites entreprises ou des particuliers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les accompagner. On fait, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on appelle des prêts à impact. Qu'est-ce que c'est ? C'est, par exemple, je prends un de nos clients, Fleury Michon, qui, j'espère, ne m'en voudra pas de le citer, qui se donne des objectifs de réduction de ses emballages, plastique, carton, etc. Ces objectifs sont audités par des tiers et en fonction de l'atteinte de ces objectifs, on améliore le taux du crédit. Ça, c'est prêt à impact. On en aura, ça représentera 30% de notre production de crédit à l'horizon 2025. C'est très significatif.
Ouais. Juste un point, je ne sais pas si vous avez vu ce matin dans l'actualité cette perquisition dans les locaux de Deutsche Bank à Francfort, justement, parce que la banque allemande et sa filiale DWS, qui est le deuxième gestionnaire d'actifs européens, ils sont soupçonnés de greenwashing. C'est quelque chose qui vous fait peur, là, quand même ? Parce que c'est vrai que là, on a l'impression que tout le monde repeint en vert et dans la réalité, évidemment, on ne peut pas repeindre en vert d'un claquement de doigts.
Ce qui est absolument essentiel, et nous y sommes très très attentifs, c'est d'assurer l'auditabilité, la traçabilité des engagements que nous prenons. Nos clients, s'agissant par exemple de l'usage de leur épargne, sont très attentifs à sa destination. Et donc, pour nous, c'est très très important de pouvoir leur donner l'assurance que les fonds qu'ils nous confient sont employés selon les indications qu'ils nous donnent. La traçabilité, l'auditabilité, la manière dont on rapporte ses engagements, c'est très important.
Et Marguerite Bérard, bien sûr, on va finir sur cette bonne nouvelle. 7000 recrutements en France. Pour faire quoi ?
Pour servir tous les métiers de la banque, les métiers de la banque commerciale en France dont je m'occupe, que ce soit une clientèle entreprise, une clientèle...
Combien sur la banque commerciale ?
La banque commerciale en France, on recrute cette année 3000 personnes, 2000 CDI, 1000 alternants, parce qu'on est des grands fans de l'alternance. C'est une formation d'excellence. Et donc, nous recrutons dans tous les métiers de la banque, les métiers aussi de la technologie, beaucoup de profils d'informaticiens, beaucoup de profils digitaux, des profils de conseillers bancaires. Voilà, tous les métiers de la banque recrutent et on en est très heureux.
Avec quel niveau de salaire ? Bon niveau de salaire ?
Écoutez, on essaye d'être un employeur attractif, on y est extrêmement attentif.
Dividendes salariés, parce qu'évidemment 9 milliards de bénéfices, des gros dividendes versés. Dividendes salariés, est-ce que vous y êtes favorable ?
Nous, on a une politique très importante, notamment d'intéressement et de participation. Pour vous donner un ordre d'idée, puisque vous faites référence à nos résultats, ça veut dire que pour un salarié de BNP Paribas qui démarre chez nous, ça représentait plus de 5 500 euros. En intéressement et en participation cette année. C'est un juste retour, l'intéressement, la participation. C'est ça pour moi aussi le dividende salarié. C'est un juste retour de l'engagement des salariés au service de la banque.
Toute dernière question quand même. Je ne sais pas si vous avez vu, enfin j'imagine que vous suivez très bien ce qui se passe à la Société Générale, qui rapproche le réseau Société Générale avec celui des Crédits du Nord, puisque c'est en charge de la banque commerciale.
Nous, on n'a pas de projet de fusion.
Non, mais de cette manière, vous n'avez pas d'autres marques. Enfin, donc, mais en revanche, eux, ils annoncent des suppressions d'agences. 600, là, il y en a 150 qui ont été ciblées dans le cadre de ce rapprochement. Pour l'instant, ça fait au total 2200 agences. Ils voudraient passer à 1500. Vous en avez 1700. Vous restez sur ces 1700 ?
Nous, on a un réseau d'agences autour de 1700 agences qui est important pour nous, qui fait partie du service que nous offrons nos clients, de la même manière que l'usage digital de nos clients progresse aussi fortement. Notre réseau, il évolue au fil du temps, mais on n'a pas de plan de fermeture de nos agences.
Ouais. Plutôt du recrutement, on l'a compris. 7000, ça fait quand même beaucoup. Merci beaucoup, Marguerite Bérard,
merci
d'avoir été avec nous. Directrice de la Banque commerciale en France, BNP Paribas, qui reste très confiante, malgré les quelques nuages qui assombrissent notre économie, mais en tous les cas, les entreprises sont toujours au rendez-vous. Ça tombe bien, on en parlera avec la France qui reste le pays le plus attractif, quelques bémols. On en parle avec Pascal Cani dans un instant, juste après le journal de Faïza Younzi.
BFM Business, le grand journal de l'écho. L'œil de Jean-Marc Daniel.
Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Alors vous avez un œil qui est déformé, parce qu'en fait ce que vous allez nous expliquer, c'est que l'inflation déforme la consommation, quoi.
Exactement, oui. On est arrivé à un niveau d'inflation tel, 5,2%, que la consommation ne se reproduit pas à l'identique avec des gens qui puisent dans leur madeleine pour essayer de maintenir leur niveau de vie. Et la déformation se fait de façon assez paradoxale. C'est-à-dire qu'en économie, on est persuadé normalement que quand les prix augmentent, la consommation du bien concerné diminue. C'est la loi naturelle de la demande, c'est la loi du débit, disait-on au 19e siècle. Mais il y a des biens un peu particuliers où c'est l'inverse. Quand le prix augmente, la consommation augmente. Alors, il y a deux types de biens. Il y a ce qu'on appelle les biens de luxe ou les biens Veblen, du nom d'un économiste américain du début du XXe siècle, qui sont liés à, dont la consommation est liée au snobisme. Le prix augmente, les gens se disent, ah, mais là, si on se met à acheter de ce produit-là, eh bien, ça veut dire qu'on appartient à la classe dirigeante, aux gens riches, aux gens aisés. On appartient à une forme d'élite, en tout cas, une élite sociale et financière. Et puis, il y a les biens tout à fait à l'autre bout de la chaîne, il y a les biens qui sont les meilleurs marchés. Et on prend comme exemple, en général, les pâtes alimentaires. Si vous augmentez le prix des pâtes alimentaires, les gens qui les consomment ont en général des budgets assez serrés. Et cette augmentation fait qu'ils ne peuvent plus se permettre d'acheter de la viande. Et donc, il faut quand même qu'ils continuent à se nourrir et donc ils consomment davantage de pâtes alimentaires. Grosso modo, si vous augmentez le prix des pâtes, au lieu d'en manger deux fois par semaine, tout un tas de ménages vont se mettre à en manger trois fois par semaine pour continuer à pouvoir maintenir leur niveau de vie sur les autres postes de consommation. Et donc, c'est ce qu'on appelle des biens Giffen. Et ce qui se
Giffen.
Passe... Giffen, du nom de notre économiste, de la fin du 19e siècle, qui est un Écossais, lui, un Anglais, enfin un Britannique, pardon, un Écossais. Et ce qu'on constate quand on regarde ce que les informations qui viennent de la grande distribution, on s'aperçoit qu'effectivement, nous assistons à ce moment à un effet sur les biens Giffen. C'est-à-dire les pâtes, c'est vraiment des biens Giffen. C'est-à-dire que la consommation de pâtes alimentaires est en train d'augmenter alors que les prix de ces pâtes sont en train d'augmenter. Donc, la déformation de la consommation ne se fait pas forcément suivant le bon sens que l'on a naturellement, qui considère plus c'est cher, moins on achète.
Oui, même au contraire, c'est étonnant. Hein. Très intéressant. Merci beaucoup de votre œil, Jean-Marc Daniel. Dans un instant, c'est Pascal Cani, qui est président de Business France, qui sera avec nous. On parlera de la France, qui reste le pays le plus attractif, avec forcément un ou deux petits bémols. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
La France qui reste le pays le plus attractif en termes d'investissement, attractif d'Europe. Évidemment, Pascal Cani est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de Business France, ambassadeur délégué aux investissements internationaux. Pascal Cani, c'est le baromètre EY, on l'attend toujours avec j'imagine vous l'attendez avec quelques appréhensions, mais là en même temps, les chiffres sont plutôt bons. Quand je disais qu'il y avait quelques bémols, c'est parce que les programmes sont un petit peu plus petit, peut-être, mais déjà, restons sur le nombre.
Écoutez, je vous rappelle que pendant deux ou trois décennies, jamais la France n'a fait même partie de ce classement dans les top de deux ou trois premiers. Et que nous avons, depuis trois années, montré un leadership très clair. Alors, c'est le résultat de réformes d'un langage, d'une posture un peu différente à l'international, et puis le fait que peut-être finalement, enfin, les investisseurs étrangers reconnaissent les atouts structurels qui sont les nôtres, des infrastructures qui ont été bâties par plusieurs générations, une French Tech, une French Fab, une santé qui est aujourd'hui mieux reconnue, et donc tout ça fait des infrastructures qui sont aussi fortes en matière aéroportuaire ou autoroutière, donc on tire bénéfice à la fois d'une vraie politique gouvernementale et une redécouverte des atouts français. Donc on est très heureux, 1222, et oui, on l'avait avec beaucoup d'appréhension, et là, en fait, on a cessé d'augmenter le delta.
Il y a un petit ralentissement quand même, oui.
Non, il y a pas
enfin, général,
on est à plus de 31% de croissance, ouais. C'est ouais. énorme. Mmh. Et au contraire, par rapport à l'année dernière, on a pris un lead que je dois vous avouer, on est très étonné et très heureux d'avoir par rapport à l'Angleterre, qui souffre réellement du Brexit, et à l'Allemagne, où le paradoxe, c'est que le plein emploi justifie sans doute des chiffres qui ne sont pas très bons pour leur, de leur côté.
Parmi, on va revenir là-dessus, parce qu'en même temps, quand même, eux, ils ont eu... bon, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais donc je vous ressors. Tesla. Bah oui, mais c'est quand même les très gros investissements. Mais on va revenir là-dessus. J'ai juste une question par rapport à la France qui reste le pays le plus attractif. Vous avez raison, les infrastructures sont bien meilleures qu'en Allemagne. Il y a aussi les réformes économiques qui ont été dues. Il y a l'impact Macron, sans doute. Mais est-ce que l'impact du nucléaire est important? Parce que nous, on a dû à l'énergie nucléaire qui coûte moins cher. Est-ce que, et pourtant, je ne le vois jamais cité.
C'est un très bon point. Je connais bien la société Rockwool, par exemple, qui fait de la laine de verre. Quand Rockwool, qui a donc des produits assez volumiques, décide de s'implanter en Europe, ils sont très heureux de venir en France où on a une électricité dont je vous rappelle qu'à 92% elle vient de l'énergie nucléaire et qu'elle est moins chère. Et donc, allié à la qualité de nos infrastructures routières, eh bien, Rockwool décide de s'installer en France. Donc là, c'est un exemple concret où le fait qu'on venait du nucléaire, qui rend l'électricité relativement moins chère, surtout aujourd'hui par rapport à nos concurrents, avec la qualité des infrastructures combinées, nous donne des jobs. Donc je crois que c'est très important. Et pour prendre votre premier bémol, qui est celui en gros des implantations, ce qu'on appelle Greenfield, c'est-à-dire en venant de nulle part par rapport aux implantations...
Alors, Greenfield, on va expliquer. Oui, parce que je disais que c'est vrai qu'on peut avoir des... Il y a des sites qui sont installés, mais il n'y a pas de nouveaux projets. C'est plus des extensions de
sites. On a 66% de ces 1222 projets qui sont en fait des extensions. Et ça, voilà. Faut d'abord reconnaître que ce sont des clients qui sont très satisfaits. Oui. Ce sont des clients aussi qui disent, 56% d'entre eux disent, alors même qu'on a la guerre en Ukraine, qu'ils ont l'intention de revenir et de s'installer. Mais après, on a essayé de comprendre le delta entre ces nouvelles installations et les anciennes. Et là, on se rend compte de deux choses. D'abord, les nouvelles installations se font souvent en zone urbaine ou périurbaine à forte densité. Mmh. Et là, il faut avouer qu'on a un arsenal législatif assez contraignant, qui sert d'ailleurs et préserve la vie de nos citoyens qui sont dans ces zones-là, qui participe aussi à ce leadership que l'on a sur un bilan carbone très faible, donc une réglementation forte, mais ça joue à notre défaveur.
Et la deuxième idée... C'est ce qu'a dit Elon Musk pour Tesla, hein,
exactement.
Pour s'installer en Allemagne. Il a dit, écoutez-moi, il me faut... En 3 mois, tout a été réglé, en France, il faut 3 ans. Enfin, ce n'était pas les chiffres
quand
exacts.
Quand on arrive à avoir des grands espaces sur des zones urbaines ou périurbaines. Et la deuxième idée, c'est qu'on se rend compte qu'on a encore beaucoup d'idées préconçues à défier. C'est ce pourquoi qu'il faut continuer avec Business France, l'agence que je préside, avec le réseau diplomatique, continuer à aller au front, si je puis dire, sur les fortunes 500 ou 2500, leur expliquer qu'on a une vraie flexibilité de l'emploi, qu'on a un taux d'imposition raisonnable, qu'aujourd'hui on a un talent, une ressource des talents qui sont extrêmement plus disponibles ici qu'elles ne le sont en Allemagne. Donc il faut continuer à vendre ce pays avec des arguments très concrets. Et si on fait ça, on pourra à la fois se satisfaire des extensions, dont il faut être fier, et essayer d'avoir dans les 5 années à venir, dans ce prochain quinquennat, plus de nouvelles installations.
Oui, mais ça veut dire quand même qu'il faut aussi réformer l'État, parce qu'il y a une volonté, je m'en souviens d'Agnès Pannier-Runacher, quand elle était à l'industrie, qui expliquait que maintenant il y avait une personne, il y avait un guichet unique. Mais en même temps, les témoignages qu'on a, c'est compliqué. Même les Français vous disent. Philippe Dornano, le patron de toutes les ETI françaises de Sisley, dit ouvrir une usine, chose qui fait une autre usine, c'est très compliqué en France.
Non, mais d'abord, on ne réforme pas en 5 années, c'est-à-dire en moins de 1000 jours ouvrés. Des strates successives d'administration. Pour autant, le Team France à l'export, le Team France à l'invest, qui est cette idée où on met des administrations centrales, avec une agence nationale comme la nôtre, Business France, mais aussi les agences régionales, les départements, les régions ensemble, je crois que ça fonctionne mieux que ça n'a jamais fonctionné. On a augmenté, alors même que l'on nous critique sur notre déficit commercial, on a augmenté le nombre d'exportateurs. C'est ce qui m'a conduit, avec Christophe Lecourtier, à faire une tribune dans un des quotidiens de ce jour. On continue à avoir plus d'investissements. On a mis près de 127 sites clés en main. Mais c'est un travail de longue haleine. Je crois que l'idée est là...
Oui, parce que vous avez mis à disposition 127 sites clés en main, pardon. Mais vous avez pas, ils sont pas tous, il y a pas des preneurs pour
non,
tous.
Non, on n'a pas encore assez de preneurs. C'est pour ça qu'il faut continuer à haranguer les décisionnaires, les conseils d'administration, à leur expliquer pourquoi ce pays est un pays où il fait non seulement bon vivre, mais il fait aussi bon investir. On a maintenant suffisamment d'exemples concrets. Eastman Kodak qui vient à Rouen avec 850 millions d'investissements, BASF qui traverse le Rhin et qui s'installe à Charles-en-Pays avec 350 millions d'investissements et plusieurs centaines de jobs créés. Bref, toutes ces choses-là participent à une dynamique forte. Je crois qu'il faut aujourd'hui célébrer, ma chère Edwige, le fait que depuis 5 ans, on a une attractivité renouvelée.
Bien, mais on peut regarder aussi la situation.
Adresser les points négatifs, comme vous le faites, et continuer à travailler en équipe, parce que quand l'équipe de France travaille, que ce soit à l'export ou à l'invest, on gagne et on monte tous les jours.
Oui, bien sûr, mais c'est intéressant aussi de regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer pour aller, pour transformer encore plus. Je trouve que c'est un point intéressant. Vous avez dit sur la fiscalité, ça c'est un point qui compte, et sur l'emploi, le plein emploi en Allemagne, en fait, nous favorise parce que vous voulez dire il y a plus de gens en France
quand disponibles. Quand vous êtes dans des industries ou dans des économies telles que l'Allemagne, qui est effectivement en plein emploi, que vous regardez même les États-Unis qui sont montés à cause du Covid à 14%, sont redescendus en moins de 8 mois avec la création de 8 millions d'emplois à 3,5%, eh bien, et que vous êtes un employeur, vous avez du mal à recruter les gens. On l'a déjà ce sentiment en France, alors qu'on est à un niveau de non-emploi de 6 à 7%. Pour la première fois dans ma génération, notre génération, on nous dit qu'on devrait voir le plein emploi en France à l'horizon de 4-5 années. Je crois qu'aujourd'hui, il faut jouer cela. Il faut aussi continuer à former nos jeunes talents, les éduquer à la fois sur l'international et sur des formations qui servent nos investisseurs, français évidemment et européens. Donc là, c'est vrai que c'est un avantage concurrentiel fort, ils nous le disent. Quand Accenture veut créer aujourd'hui plus d'institutions, plus de jobs, ils le font chez nous parce qu'ils ont un accès à l'emploi. Lorsque vous avez Equinix qui veut créer des data centers, ils bénéficient à la fois des infrastructures, mais il leur faut aussi cette main-d'œuvre de très bonne qualité qu'ils trouvent autour de nos grands centres académiques.
Sur la question, ça c'est un point important. Et puis, en plus, là, on a une ministre de l'université, des universités qui arrive, ah bon. Sylvie Retailleau, qui connaît très bien, notamment, tout ce qui peut intéresser la tech. Une question quand même, Pascal Cadis, sur la fiscalité. Le crédit impôt recherche, il y en a beaucoup qui trouvent qu'il faut, en tous les cas, le recibler. Pour vous, vous dites surtout, on ne doit pas y toucher parce que c'est l'atout majeur. Il est simple, même s'il profite à la Poste, même s'il profite à d'autres personnes.
Le crédit d'impôt recherche est reconnu aujourd'hui comme une des rares mesures d'incitation fiscale qui, parce qu'elle est là, pérenne et depuis longtemps, elle fonctionne. Elle coûte à la communauté que nous représentons 5 à 6 milliards, mais elle nous permet aujourd'hui d'attirer plus de centres de recherche et développement que tout autre pays. Elle nous permet aussi de sédentariser ces emplois sur le territoire français. Et quand vous faites de la recherche et développement, vous allez nécessairement, lorsque vous allez penser à la production et à l'industrialisation, le faire sur le même territoire. Donc je crois sincèrement que c'est un des très bons exemples d'une mesure qui est là, quel que soit son nom, quel que soit ses termes, depuis longue durée,
et qu'il faut
absolument la maintenir. Il faut constamment remettre sur le métier à tisser, challenger le mode opératoire, faire des contrôles comme ils se font d'ailleurs, mais au global c'est une excellente réforme, ça appartient un petit peu à la marque France, que savoir à la fois je trouve du talent, et au moins sur les 100 premiers millions d'investissements j'aurai un bénéfice si je gagne de l'argent. Donc je vous rappelle que c'est pas simplement un chèque en blanc qu'on fait. Donc, je crois que c'est une excellente réforme et moi qui étais dans la tech pendant de longues années, comme vous le savez, je crois qu'il faut absolument la maintenir.
Il y a un point non plus qui rentre pas, et pourtant on le met en avant. Il suffit de regarder même la composition du gouvernement et l'intitulé des différents postes. C'est tout ce qui est la transformation écologique. La France veut plus verte que les autres pays. Je ne sais pas si vous pensez que c'est exact ou pas, je ne vous demanderai pas votre opinion, mais est-ce que c'est un atout? Est-ce que ça peut quelque chose que vous pouvez mettre en avant par rapport à des investisseurs?
Au contraire, cet excellent baromètre de EY, et je le traite d'excellent pas simplement parce que nous sommes les premiers pour une troisième année consécutive, mais parce qu'il rentre vraiment dans un ensemble de questions, et je vous invite tous à le consulter, montre quand on lui pose la question à nos décideurs si la préoccupation écologique est au top de leurs préoccupations, ils disent clairement. Et je crois que la France, qui a un plan clair avec 2030, 10 priorités, avec l'idée d'être la première économie décarbonée de l'Europe en 2050, est en train, à la faveur de ce qu'on a fait aussi sur le COP Paris et la posture qu'a pris le président de la République depuis le départ, en train de, là aussi, dans sa marque, dans son attitude, montrer que c'est important, avoir un ministre de la transition écologique qui soit au gouvernement, avec un rang important, participe à cela. Venant de l'industrie, c'est encore plus important. Donc je crois qu'il faut absolument prendre cela et en faire un facteur de différenciation. Et finalement, cet hexagone qui est le plus beau territoire du monde, il doit aussi accueillir des entreprises vertes et faire en sorte qu'on montre la voie sur le bilan carbone.
Est-ce que vous observez une baisse des levées de fonds? Vous parliez de la tech à l'instant. Est-ce que vous voyez un ralentissement, mais même des investissements? Parce que là, on est là, c'est sur 2021. Est-ce que là, en ce moment, vous voyez Michel Combes, qui est maintenant chez SoftBank International, numéro 2, disait bah oui, on a mis la pédale douce quoi, sur les investissements.
Je crois que ce sont tous ce qu'on appelle les nouveaux entrants, comme les SoftBank de ce monde, qui effectivement ont mis la pédale douce parce qu'ils sont aussi arrivés à des valorisations peut-être hors de propos. Mais au fond du fond, lorsque vous avez l'écosystème qui est le nôtre, que vous délivrez, que vous avez une demande qui est encore présente, je crois qu'on va passer dans cette tempête qui a déjà commencé et qui continue à se développer, plutôt mieux que tous les autres pays, et particulièrement les États-Unis. Je reviens de 10 jours aux États-Unis, et je crois que là, on a, comme toujours avec le monde anglo-saxon, un changement massif. Nous, nos entreprises, si elles ont les 12, 18, 24 mois qu'il faut pour pouvoir continuer à croître, vont le faire. Ça ne veut pas dire que les choses vont toujours être parfaites, mais je suis très très confiant sur la pérennité de la French Tech et de ce mouvement et le fait qu'on va continuer à créer des jobs, puisque je vous rappelle qu'on a créé plus de 250, 300 000 même, suivant différentes statistiques, et que ça appartient maintenant aussi à l'attractivité du territoire français.
Oui, absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal Cagny, donc directeur président de Business France et ambassadeur délégué aux investissements. Merci beaucoup. Dans un instant, le journal Stéphanie Collot. Ensuite, c'est Franck Gervais, directeur général de Pierre et Vacances, qui sera avec nous. Enfin, des bonnes nouvelles pour le numéro 1 européen des résidences de tourisme. Le tourisme, la France aussi, est très attractive et redevient attractive. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Franck Gervais, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park. Et j'ai envie de dire, pour la première fois, vous venez en tant que patron de Pierre et Vacances avec une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de plan de restructuration. Enfin, il y a toujours des plans de restructuration. Il y a encore beaucoup de choses, évidemment. Mais vous avez sorti un premier semestre quand même très positif, meilleur que le premier semestre 2019. Ça veut dire que vous avez retrouvé un peu de votre énergie.
Oui, c'est la très bonne nouvelle, hein. Et donc on est ravis, tous les salariés du groupe, et c'est la plus belle récompense de tout le boulot qu'ils ont fait pendant ces périodes de crise, c'est qu'on ressort de la crise plus fort, avec des niveaux de revenus de chiffre d'affaires, de fréquentation de nos parcs, Center Parks, de nos résidences Pierre et Vacances, plus fort qu'en 2019. Sur le premier semestre, c'est 7% de plus en termes de chiffre d'affaires hébergement. Et donc on est ravis de cette bonne nouvelle.
Oui. Et comment vous l'expliquez? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi?
Alors, nous, on a un positionnement...
Et qu'est-ce qui a mieux marché, si on regarde un peu vos différents...
Oui, qu'est-ce qui a marché dans le détail? On a un positionnement... Nous, on est, en Europe, le leader du tourisme de proximité. C'est le tourisme qui est à 3 heures de chez vous. C'est-à-dire qu'on propose, au travers de nos marques, Center Parks, des domaines, des expériences en pleine nature, au cœur de la nature, mais tout près de chez vous. Elles sont à l'écran. Les résidences Pierre et Vacances, qui sont des hébergements de qualité sur des destinations touristiques, et puis des campings, des locations de particulier à particulier. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que tout ce spectre d'offres-là, c'est ce qui répond aux attentes des clients maintenant, qui disent « je veux de la qualité, je veux quelque chose en famille, et je veux quelque chose qui me mette en contact avec la nature. »
Oui, je veux apprendre. Oui, vous vendez un tout petit peu, c'est très bien, parce que vos différentes marques, moi, ce qui m'intéresserait là, c'est de comprendre où a été faite la croissance ce premier semestre. Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est les résidences Pierre et Vacances, souvent à la montagne? Est-ce que c'est Center Park? Est-ce que c'est Adagio? Vous voyez, c'est.
Ouais,
parce qu'on connaît tous vos marques, donc ça nous intéresse.
Center Parks. Ouais. Center Parks, pourquoi? Parce que. Il y a eu un plan d'investissement drastique. Il y a 700 millions qui ont été mis entre 2019 et 2025 pour rénover tous les Center Parks. On vient d'en ouvrir un tout nouveau, flambant neuf, il y a 15 jours dans les Landes. Et donc, ça cartonne. On est sur une croissance de plus 20% sur Center Parks. Pierre et Vacances, on est ISO 2019, mais on avait moins d'appartements en stock par rapport à 2019 parce que on a voulu nous faire un tri un petit peu qualitatif pour rehausser le niveau de nos produits, de nos résidences. Donc dans l'ordre Center Park, Pierre et Vacances, et puis on a Maeva qui cartonne aussi. Hein. Maeva, c'est x2, x3 pour les campings parce que voilà le genre de produit qui plaît aux clients. Donc finalement, on voit que toutes ces offres-là, toutes ces marques plaisent et on a une envie des Français de retourner en vacances, de passer des week-ends. Le week-end passé, on avait 100% d'occupation, 100% sur Pierre et Vacances, 98%.
Y compris la montagne. Ouais.
La montagne a aussi marché très très fort, ouais, parce qu'on a eu 2 années sans montagne. Et ce qu'on voit, et là c'est tout récent, on voit que les étrangers reviennent, par exemple pour l'été là, qui vient sur Center Park. On a 60% de clientèle française, 40% de clientèle étrangère, néerlandaise, belge, allemande, et donc ils reviennent progressivement, et ça c'est aussi un bon signe.
Vous avez connu des années très dures, il y a évidemment l'accord qui a été trouvé avec vos actionnaires, il y a une restructuration, vous avez encore une échéance importante, je crois que c'est le mi-septembre 2022, sur l'aspect restructuration financière du capital. Comment est-ce que vous l'abordez par rapport à ces bons chiffres ?
Bah, c'est que des bonnes nouvelles pour la restructuration. La restructuration du groupe, en fait, elle est complètement sécurisée. D'ici mi-septembre, elle va se faire. Et en quoi elle consiste ? Elle consiste à l'apport d'argent frais, donc nouveaux capitaux, désendettement. Et ça veut dire que ça nous met complètement sur des rails pour investir plus. Et c'est ça, notre modèle, c'est d'investir sur des cottages, des résidences, le digital. Et donc, on a une stratégie qui s'appelle la réinvention. On veut réinventer le tourisme. Et donc, ces bons chiffres-là, qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent que cette stratégie, elle est celle qui plaît aux clients. Et donc, forcément, elle plaît aussi aux investisseurs.
Mais comment ça se passe ? La dernière fois, vous étiez venu là, justement, vous nous avez dit, vous ne connaissiez pas l'issue, enfin, vous le connaissiez, mais presque. C'est un accord qui est signé avec les créanciers. Il y a des protocoles qui ont été signés. Il y a des nouveaux financements qui ont été mis en place. Même par rapport à Adagio, comment est-ce que vous allez organiser ça ?
Alors, comment on va organiser ça ? Alors, c'est à la fois très technique, très complexe, mais à la fin, pour simplifier, il y a de l'argent frais qui rentre dans le groupe.
De qui ? Des actionnaires ?
Des actionnaires, de nouveaux actionnaires qui vont prendre la majorité du capital, ouais, à partir de septembre. Il y a une dette existante.
Oui, c'est quand même une dette importante, hein, quand
donc
on
ça,
est l'histoire depuis
un vacances.
Oui.
C'est-à-dire qu'on change d'actionnariat.
On change d'air.
Voilà, on change d'air. Ensuite, on a une dette qui était une dette héritée du Covid. Hein. On a accru notre endettement de 600 millions à cause du Covid. Bah, cette dette, en fait, on va la diviser par 3 en septembre, avec un remboursement partiel et puis aussi une conversion d'une bonne partie de cette dette, la moitié, en capital. Donc, les créanciers entrent aussi au capital du groupe. Et donc, on a un nouveau groupe désendetté, renforcé dans ses fonds propres et qui a une capacité d'investissement et une force de frappe qui est du coup décuplée. Et donc, c'est ça qui est bien.
Et l'actionnariat, donc ça sera quoi
En gros, à peu près 60% les nouveaux actionnaires, un consortium.
Qui sont, oui.
Donc, Alcentra, Fidera, Atrim, deux fonds de dette anglo-saxons et ouais, puis un gestionnaire d'actifs français qui possède déjà des Center Parks notamment. Donc, un petit 60%. 30% les créanciers existants qui convertissent plus de 500 millions de dettes en capital, et puis 10% les actionnaires actuels qui vont du coup être dilués à hauteur de 10%.
Oui, dont le fondateur, dont Gérard Brémond.
Président fondateur Gérard Brémond, oui, qui restera actionnaire demain, mais évidemment de façon plus minoritaire.
Donc pour vous, Franck Gervais, c'est une transformation que la fréquentation de ce premier trimestre valide, en tous les cas c'est ce que vous pensez. Et pour vous, vous prenez la tête d'un groupe qui est très différent de celui que vous avez connu en arrivant.
Oui, voilà. Finalement, en 18 mois, oui, 18 mois très durs, hein, chômage partiel des équipes, tout le monde a travaillé vraiment d'arrache-pied, bah, on a un peu la victoire de notre travail avec un groupe quasiment nouveau finalement. On conserve ces magnifiques marques, notre base clientèle, 8 millions de clients.
Toutes les marques.
Nos employés, toutes les marques. Et puis, par contre, on se déleste de ce qui nous pesait. La dette, un business model qu'on a simplifié, des investissements qui vont être plus élevés, supplémentaires, c'est ce qu'attendent nos clients et ils nous le disent et ils sont ravis. La satisfaction aussi, j'en ai pas parlé, la satisfaction 2022 gagne plus de 10 points par rapport à avant crise. Donc ça aussi, c'est une vraie marque de satisfaction
pour nous. Et satisfaction en tous les cas en bourse. Hein, aujourd'hui, vous avez vu l'effet de votre annonce la progression de vos résultats.
C'est bien. Le chiffre d'affaires en hausse, la marge en hausse de plus de 20%. Et donc, on est aujourd'hui, je pense que c'est un moment un peu de récompense du travail de plus de 12 000 collaborateurs. Et donc, c'est un vrai moment positif pour nous.
Si on regarde vos marques, que ce soit Adagio, Maeva, Center Park, vous avez fait des énormes investissements dedans. En fait, ce sont des marques que vous avez complètement transformées. Et même Pierre et Vacances.
Exactement. Quand on les prend, il y a 10 ans, il y a 5 ans, elles ont été complètement.
Non, mais même avant le Covid.
Et même avant le Covid. Pourquoi ? Parce que le positionnement de Center Parks, on se souvient tous de la bulle aquatique. Il y a toujours un espace aquatique dans nos Center Parks, ce qui fait le bonheur des enfants. Mais ce pourquoi les familles viennent, c'est des parcours au cœur de la nature. Des jardins potagers, des parcours avec des espaces où on apprend ce que c'est que la biodiversité, la faune, la flore. Et on a complètement modifié le produit, investi les cottages. Ils sont flambant neufs, les cottages. Et donc, ce n'est plus du tout les mêmes Center Parks que ceux que vous avez pu connaître il y a 5 ans. Dans 2 ans, tous nos Center Parks, quasiment 30 en Europe, seront neufs ou entièrement rénovés.
Et donc là, et vous avez investi, vous avez 700 millions, c'est ce que vous disiez à l'instant.
Alors, ce sont les propriétaires, des bailleurs institutionnels de Center Parks qui ont investi 700 millions. Et puis, pour Pierre et Vacances, c'est le même changement, avec là le plus des propriétaires individuels qu'on accompagne pour, pareil, toujours investir dans les résidences, améliorer le produit.
Vous avez réglé tous les problèmes que vous aviez avec des particuliers qui n'avaient pas pu louer leur résidence.
Pendant la période de Covid, donc il y a eu 2 ans de Covid, ça on a tous vécu. 1 an pendant lesquels nous, on n'a pas pu opérer parce qu'on était fermé ou parce que les remontées mécaniques étaient fermées. Et donc, on a proposé à tous nos propriétaires individuels un accord. Et il y a eu 81% d'entre eux qui ont signé ces accords-là pour dire « Ok, on voilà. met ça
et les 20% restants.
Passé. 20% restants.
Pas les plus loin. La dernière fois, c'était déjà 80%.
Voilà, elle est toujours ouverte. La discussion, la porte, elle est toujours ouverte. Après, évidemment, le contexte fait que maintenant, les relations sont quand même plus faciles quand le business va bien, que les clients reviennent. Et voilà, ça facilite forcément la discussion quand même.
Ouais, qu'est-ce qu'il reste à faire encore sur Pierre et Vacances?
Sur Pierre et Vacances, ce qui reste, c'est du développement, beaucoup de développement qu'on a commencé en Italie, en Sardaigne. Donc, on a de grandes ambitions de développement. Et puis, toujours favoriser ce produit qui est un tourisme réinventé à la montagne où on veut vraiment des produits de qualité. En bord de mer, favoriser tout ce qui est local, c'est ce que nous demandent nos clients. Et donc, toutes ces activités locales pour faire découvrir toutes les richesses culturelles, gastronomiques, littorales ou montagnardes, c'est ça le positionnement de Pierre et Vacances. Et donc, c'est tout ça qui nous reste à faire.
Juste, l'ensemble des loyers impayés, ça a été combien qui reste?
L'ensemble des loyers
individuels, oui.
On est sur l'ordre d'une dizaine de millions d'euros à peu près. C'est ça l'ordre de grandeur des loyers qui ont été impayés.
Et donc là, pour l'instant, c'est en l'air, c'est en suspens.
En fait, il faut revenir à la réalité. C'est-à-dire que nous, on a eu 1 an d'inactivité. Pendant 10 mois, on n'a rien pu louer. Pendant 4 mois, on a été fermé administrativement par décision du gouvernement. Et l'accord qu'on a proposé à nos propriétaires, c'est le meilleur accord qui existe sur le marché. C'est de dire, en dépit de toute cette période Covid, il y a 5 mois qui vous sont retenus. Je sais que c'est beaucoup, mais tout le reste vous est payé maintenant. Ouais. Et donc, pour se sortir, et vous avez commenté notre situation, pour sortir de là, tout le monde a dû faire des efforts. Les actionnaires actuels, les propriétaires, les créanciers. Voilà, donc c'est vraiment un effort collectif.
Ouais. Qu'est-ce qui vous reste encore? On a parlé de la restructuration, des protocoles, ça avec les créanciers, la transformation de la dette. Mais donc là, il reste un désaccord donc, sur les bailleurs individuels. Il reste sur les propriétaires, il reste aussi...
Il reste surtout une stratégie réinvention avec un plan d'affaires qui vise à doubler notre marge entre maintenant et 2025, passer de 90 millions d'EBITDA à 180 millions d'EBITDA. Et donc, la croissance du chiffre d'affaires, l'amélioration de la performance, il reste beaucoup à faire. Mais tout ça, c'est drivé par une chose qui est une conviction, une ambition, c'est que je suis convaincu que ce groupe, avec ses 4 magnifiques marques, réinvente le tourisme parce qu'il le modernise radicalement.
Comment vous voyez l'année? On a vu le premier semestre très positif, Franck Gervais. Comment vous voyez l'année, l'ensemble de l'année?
Pour le moment, ce qu'on voit, c'est que les portefeuilles sont bien garnis. Pour cet été, on a à peu près 60% des réservations qui sont déjà faites pour cet été. Et on sait que la dernière minute vient encore garnir ça dans le dernier mois. Donc on voit vraiment quelque chose de positif avec une clientèle qui reste plutôt dans son pays, les Français en France, les Allemands en Allemagne, les Néerlandais aux Pays-Bas, plutôt dans son pays, et qui va vouloir continuer à dépenser dans des lieux de qualité, dépenser sur site et sur des séjours plus longs. Aussi, on voit une durée de séjour qui augmente d'à peu près une journée. Et donc, on voit ça se projeter pour l'été. Et même déjà, ça y est, ça commence à réserver pour l'été indien, l'automne. Et on commence même les réservations pour le ski, parce que les gens se projettent déjà pour le ski.
Et est-ce que vous avez de nouveaux acheteurs pour Pierre et Vacances? Enfin, de nouveaux bailleurs, enfin oui, non, propriétaires, pardon.
Je n'ai pas compris la question.
Non, sur Pierre et Vacances.
Ouais, de nouveaux propriétaires pour notre développement.
Oui,
alors on a surtout créé en fait avec
dans l'accord. Oui, propriétaires. Oui, non, j'avais un doute.
Non, dans l'accord qu'on a signé avec nos futurs actionnaires, l'un d'entre eux, Atrim, crée une foncière qui va en fait nous aider à nous développer. Et donc cette foncière va développer des nouveaux Pierre et Vacances, des nouveaux Adagio, des nouveaux Center Parks. Et donc on est ravis que ça nous aide nous à accroître encore notre toile. Et donc, ce futur bailleur préférentiel, il est tout trouvé.
Vous avez fait une pub, on en parlait tout à l'heure, où effectivement, vous dites, à la limite, on change plus vite que notre image. Vous n'avez jamais pensé à changer peut-être le nom Pierre et Vacances, même si c'est le nom historique, bien sûr?
En fait, c'est un beau nom, Pierre et Vacances, Center Park. Ils ont une belle notoriété, une belle perception. Après cette pub que vous mentionnez, on a envie tous de rire et de prendre un tout petit peu de recul et de dérision sur nous-mêmes. Et nous, c'est vrai que toutes nos résidences, enfin deux tiers de nos résidences seront rénovées dans 2 ans sur Pierre et Vacances. Les gens peuvent rester avec une image ancienne de Pierre et Vacances, une image ancienne de Center Park. Donc on leur dit, vous savez quoi, retestez, parce que probablement que vous restez sur une image ancienne. Et on dit derrière, 90% de nos clients sont satisfaits et veulent revenir. C'est la meilleure preuve, mais on le fait avec un tout petit peu de recul et ça fait du bien.
Non, mais surtout, c'est qu'en fin d'année, on l'a dit, comme ça, on boucle la boucle, Franck Gervais, c'est que c'est vraiment un peu un nouveau groupe, ne serait-ce qu'en termes d'actionnariat, qui va voir le jour.
Ouais.
Donc, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de balayer un peu et de repartir sur d'autres marques?
C'est vraiment pas la priorité du moment. Pour le coup, l'intérêt, c'est vraiment d'améliorer toujours l'expérience client, le fait de changer de nom. Pour le coup, on a de belles marques bien installé dans le paysage, donc c'est pas du tout la priorité.
Le tourisme en France, c'est la fête du tourisme, je crois, jeudi. Hein.
Ouais.
Tiens, il n'y a pas de ministère du tourisme, ça vous perturbe ou pas, Franck Gervais? Vous vous dites, tiens, ils ne savent pas que la France est le premier pays, la première destination européenne?
Non, mais ça va venir très vite, pour le coup, ça viendra assez vite, le ministère du tourisme. Je pense que l'enjeu, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi la vision du tourisme?
Vous pensez qu'il y aura un ministère du tourisme?
Bah oui,
un ministère.
Forcément un ministère du tourisme.
Ah bon, non, forcément, je ne sais pas.
Oh bah si, il y en a toujours eu. Et puis, vu le poids dans le PIB du tourisme, près de 10%, on ne peut pas s'en empêcher. La vraie question, c'est pour faire quoi? Quelle vision on a pour notre tourisme? C'est plus une vision d'être le premier en quantité, 100 millions de visiteurs étrangers en France. Ça, c'était avant. Plein de choses sont passées depuis. L'intérêt, c'est que la France soit le pays du tourisme responsable, du tourisme durable. Et c'est ça, l'enjeu de tous les acteurs du tourisme et donc du prochain ministre du tourisme.
Ouais, d'accord. Donc, vous restez optimiste, Yann. Il y en aura un. Et en plus, vous restez très optimiste sur 2022. Puis après, on va enchaîner 2023, les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques.
C'est ça.
Tout ça, c'est bon pour vous.
Plein de belles occasions, oui.
Merci beaucoup, Franck Gervais. Pour la première fois, vous avez le sourire ici, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park, qui a donc retrouvé un peu le sourire aussi, comme son directeur général. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler football. Là, c'était moins terrible. Avec Pierre Ferracci, qui est président du Paris Football Club. Et évidemment, Pierre Ferracci, on parlera de retraite à 65 ans, des successions à la tête des principaux syndicats, puisqu'il est aussi président du groupe Alpha. Restez avec nous.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Notre invité Pierre Ferracci, double casquette. Bonsoir Pierre Ferracci.
Bonsoir.
La première casquette, président du groupe Alpha, j'ai envie de dire assez sérieux, enfin le reste c'est aussi assez sérieux, enfin un peu plus ludique. Groupe Alpha, c'est vous travaillez avec les entreprises, les comités d'entreprise, vous travaillez beaucoup avec les syndicats, notamment avec la CGT. On reviendra sur la succession de Philippe Martinez et aussi sur les autres syndicats où il y a aussi des successions. Qu'est-ce que ça change, retraite à 65 ans? Et puis, bien sûr, il y a la casquette football. Dieu sait qu'il y a de l'actualité avec ce qui s'est passé au Stade de France samedi soir où vous étiez, selon mes informations.
Avec mon petit-fils.
Avec votre petit-fils.
De 12 ans.
Dis donc, j'espère qu'il n'a pas eu peur parce que vous êtes président de Paris Football Club. Tiens, et puis, non, juste, mes confrères d'RMC Sport viennent de sortir une info. Comme quoi ?
Que je ne commenterai pas.
Ben pourquoi vous n'allez pas le commenter ? Mais je vais quand même expliquer aux auditeurs.
Parce que quand il y a une négociation en cours, comme dans le social, il vaut mieux s'abstenir de commenter.
C'est que Rai pourrait venir au Paris Football Club. Sacré... D'abord, est-ce que vous démentez ?
Je ne commente pas, je ne dément pas, je ne confirme pas.
Vous avez quand même dit qu'il y avait
ne...
des discussions en cours.
J'ai des négociations en cours, mais de façon assez large, continuer à ouvrir le capital de mon club.
Oui. Donc, il y a des discussions en cours.
Il y a des discussions en cours, comme il y en a eu beaucoup, et je continue à internationaliser mon club au niveau de l'actionnariat, mais tout en gardant une majorité nationale, française, pour éviter, même si parfois ça a du sens, que tous les clubs de football demain passent sous la coupe étrangère. Je fais en sorte que le mien ne soit pas dans ce cas-là, mais c'est difficile de gérer le football.
Et Rai serait une solution ?
Non mais Rai, je ne vais pas commenter Rai. Rai, c'est un excellent joueur qui a marqué l'histoire du PSG, du grand club d'à côté. Si un jour il se retrouve au Paris FC, j'en serais ravi, mais pour l'instant, la question n'est pas d'actualité.
La question n'est pas d'actualité. Bon. Donc vous ne discutez pas avec Rai, alors ?
Je discute avec beaucoup d'acteurs qui sont intéressés par le Paris FC et par le projet de ce club, même s'il a loupé la montée en Ligue 1, mais il a été encore une fois barragiste. Par contre, les filles sont en troisième position et ont accès à la Ligue d'Europe des féminines, et j'en suis ravi. Et le club poursuit son chemin, donc encore une fois, si un jour un joueur aussi prestigieux et une personnalité aussi remarquable que celle de Rai nous apportait son soutien, j'en serais ravi, mais pour l'instant, je ne peux pas commenter quelque chose qui n'a pas de signification particulière au moment où les journalistes de RMC, toujours bien informés, se posent ce type de questions.
Oui, parce qu'il faut de l'argent.
Ah ça, il faut toujours de l'argent pour faire fonctionner un club de football. Et malheureusement, parfois, on en perd beaucoup, mais on essaie d'équilibrer les
coûts. Est-ce que vous cherchez de nouveaux actionnaires ?
Oui, je continue à élargir le capital, mais surtout dans une dynamique de projet qui ouvre au Paris FC des perspectives de partenariat qui vont au-delà d'un actionnaire nouveau. Donc il y a des continents qui nous intéressent en termes d'image, il y a des continents qui nous intéressent en termes de développement du football. Par exemple, le football féminin aux États-Unis est quelque chose de très attractif. Donc là, je vous donne un signe. Peut-être qu'on est en train de négocier, après avoir ouvert les portes du Golfe, les portes de l'Arménie, les portes de l'Inde, peut-être qu'on regarde aussi un petit peu du côté des États-Unis pour donner un essor supplémentaire à ce club que j'aime beaucoup.
Oui, mais en même temps, vous lisez, il y a quand même, on voit quand même d'abord une offensive américaine assez forte, mais les clubs français sont en train de se faire contrôler par des investisseurs étrangers.
Oui, j'essaye
d'éviter. Et notamment par un État, parce que c'est ce qu'a dénoncé le Real Madrid à propos du maintien de Mbappé au PSG, mais bon.
Alors, j'ai l'habitude de commenter avec beaucoup de réserve ce qui se passe dans le grand club d'à côté, que je respecte beaucoup, mais il y a des choses qui se passent dans le football qui peuvent être effectivement pernicieuses. Et en tout cas, moi, j'essaye d'éviter à mon humble niveau que demain, la totalité du football français soit contrôlée par des fonds étrangers, même si, encore une fois, parfois, le contrôle d'une entreprise comme d'un club de football par des capitaux étrangers peut avoir du sens. Il ne faut pas que ça se généralise, et pour ça, il faut faire œuvre de beaucoup d'imagination, parce que le football est malade, même si la direction de la Ligue professionnelle fait du bon travail depuis quelques mois, mais elle a un héritage difficile.
Et pourquoi est-il malade ?
La crise de Mediapro, le dépôt de bilan de Mediapro, qui est pour moi un véritable scandale et un fiasco de la gestion précédente de la Ligue, est passé par là. La pandémie est passée par là aussi, a marqué le football comme notre secteur de l'économie. Et puis le football français a toujours été un peu déséquilibré, avec un niveau de sponsoring, un niveau de billetterie les jours de match faible, et donc trop dépendant des droits audiovisuels et trop dépendant du trading des joueurs. On est un excellent pays formateur, donc ça provoque, ça permet des ressources importantes, mais il ne faut pas trop dépendre de ça. Et c'est le président d'un club très formateur qui vous parle. Donc il faut rééquilibrer tout ça. La Ligue s'y emploie aujourd'hui avec Vincent Labrune.
Dire que le mercato est trop fort, trop important dans les finances des clubs de foot.
Oui, le poids dans les budgets d'un club est trop important. Et moi, j'ai développé pas mal le sponsoring, français et étranger, parce que le projet est attractif, mais c'est toujours un travail long et difficile.
Paris.
Et puis j'ai Paris, qui est un élément attractif, et si encore une fois, un jour, je peux récupérer des gens de qualité qui permettent de développer encore plus l'image et la notoriété du Paris FC, je le ferai bien volontiers.
Vous pourriez vendre ?
À ça, j'ai toujours dit qu'un club de football, c'était comme une entreprise presque normale, pas tout à fait comme les autres. Et donc, un jour, il faut passer la main, comme je vais le faire à un moment ou à un autre dans le groupe Alpha. Peut-être que je le ferai un jour dans le Paris FC. Il faut rien exclure dans ce cas-là. Il faut toujours avoir en tête que ce qui est important, c'est l'avenir de l'entreprise. C'est pas l'avenir des actionnaires. Et l'avenir de l'entreprise, c'est l'avenir de ses salariés, de ses supporters, de ses prestataires, de ses fournisseurs. Donc,
Pierre, malgré tout, juste le maintien à un prix exorbitant de Mbappé au Paris Saint-Germain, qui est détenu par un État, est-ce que ça, c'est un peu pernicieux, justement ? C'est vous qui avez employé le mot. Hein.
Moi, je suis ravi que Kylian Mbappé reste dans le football français. Et ça rendra la Ligue 1 très attractive. Après, tout le monde sait, parce que je me suis exprimé là-dessus, que autant qu'il y ait des flux de capitaux venant des différents endroits de la planète qui s'investissent dans le football français, ça peut être parfois une bonne chose. Autant le fait que des États fassent du football un enjeu essentiel peut donner quelques boutons en matière de concurrence. Donc je comprends que certains clubs qui rament beaucoup, mais qui ont été eux-mêmes parfois beaucoup aidés par les États. Hein, si vous pensez à des clubs espagnols, par exemple, notamment celui qui a gagné la Ligue des Champions samedi, ils savent aussi que même ont pu compter sur le roi à un moment donné où ils étaient en difficulté. Donc ils sont pas toujours les mieux placés pour donner des leçons. Mais il faut que le football rentre dans la vie normale des secteurs économiques, que la concurrence soit assurée de façon loyale. La FIFA et l'UEFA normalement sont là pour ça. Je pense qu'elles sont parfois un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait faire pour que cette concurrence soit un peu plus équitable.
Message reçu. Alors, parlons de ce qui s'est passé justement avec le Real de Madrid face à Liverpool. Vous étiez au Stade de France, vous le disiez à l'instant, avec votre petit-fils. Certains parlent de scandale d'État. On dit que le ministre de l'Intérieur a menti. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que la France est pointée du doigt. Comment est-ce que vous... On dit même qu'il y a donc 2800 faux billets qui ont été scannés. En tous les cas, c'est ce que a fait la Fédération française de football et l'UEFA. Comment vous analysez ce qui se passe ? Si on essaye d'être un peu calme.
Alors, il y a une chose que je n'ai pas tout à fait comprise. Alors, moi, j'étais avec mon petit-fils, c'était sa première Ligue des Champions, il était ravi, il assistait à un très beau spectacle. Il était pour Liverpool au départ, il a basculé du côté du Real quand le Real a marqué, mais ça, c'est les mômes qui sont parfois un peu mobiles en matière de supporters.
En tout cas, vous avez pu rentrer, vous.
Mais en tout cas, il était ravi, on a pu rentrer, ça s'est passé bien. Un peu moins bien pour certains de mes dirigeants du club, notamment un dirigeant d'association qui était très âgé et qui s'est retrouvé par terre avec une côte cassé, donc il y a eu quelques incidents, personne ne le nie. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'avais un billet électronique, donc il fallait présenter son smartphone pour tout le monde, et j'ai appris que les Anglais avaient demandé des billets papier.
Ouais.
Et c'est à partir de là que la fraude s'est installée. Alors la fraude, je ne sais pas de quelle ampleur elle est, des chiffres différents ont circulé, mais en tout cas, il y a eu fraude. Globalement, les supporters anglais ont été plutôt raisonnables. Moi, je suis revenu avec mon petit-fils et mes fils par le RER. C'était bondé d'anglais, ils avaient perdu, mais ça se passait très bien. Dans la fan zone de la porte de Vincennes, ça se passait très bien. Alors après, il y a toujours quelques abrutis qui traînent dans toutes les catégories de la population.
Oui, parce que quand on voit les images, on ne peut pas dire que ça se passe très bien.
Oui, mais ça se passait très bien et ça dépassait le cadre des supporters anglais, soyons sérieux.
Oui.
Il y a eu des opérations qui relèvent de la voyoucratie, qui ne concernaient pas. Encore une fois, il peut y avoir des supporters anglais. Je crois qu'il y a un journaliste de l'équipe qui s'est fait molester, qui dépasse les bornes, comme des supporters français.
Ouais.
Mais il y a eu un gros problème d'organisation, soyons clairs. Je ne comprends pas pourquoi l'UEFA, dans ces cas-là, quand la Ligue des Champions se déroule en France, ne délègue pas la gestion du match à la Fédération française de football. Je ne dis pas que tout aurait été parfait si la FFS en était occupée, mais je crois qu'une instance européenne n'a pas les codes pour faire marcher une initiative aussi forte que celle qui consiste à réunir non seulement 80 000 personnes au stade, mais des dizaines de milliers de supporters en dehors du stade, anglais et espagnol.
Ouais.
Donc il y a eu un problème de ce côté-là.
Parce que l'UEFA dit que c'est la France qui ne savait pas se gérer. Et notamment, il y avait un problème de service d'ordre, il y avait un problème de policiers, il y avait un problème de...
Moi, je pense qu'il y a un problème d'abord au niveau de l'UEFA, à la fois sur les billets pourquoi on a imposé des billets électroniques pour certains et pas pour tout le monde. Donc je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de ce type de démarche qui sécurise un petit peu le traitement de la billetterie. Et ensuite, je pense que l'UEFA aurait sans doute gagné à déléguer un peu plus clairement que ça à la Fédération Française de Football la gestion du match. Je pense que ce serait mieux passé. Il y a plein d'événements au Stade de France qui se passent très bien. Une semaine auparavant, il y avait le concert d'Indochine avec 98 000 personnes au stade, puisqu'ils occupaient aussi la pelouse. Il n'y a pas eu le moindre incident. Il y a eu des matchs de rugby, des matchs de football qui ont
donc
passionné les foules.
La responsabilité, elle est où? Parce que là, tout le monde pointe Darmanin. L'UEFA dit, enfin, l'image de la France est quand même très abîmée, vous êtes d'accord?
L'image de la France est très abîmée, ça incontestablement. Et à 2 ans des Jeux Olympiques et à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby, c'est pas très bon.
Ouais.
Bon, il y a des éléments d'explication. On sait depuis 3 mois seulement que la Ligue des Champions va se jouer au Stade de France.
Bien sûr, ça devait être à Saint-Pétersbourg.
D'habitude, on a un an devant, ça devait être à Saint-Pétersbourg et le conflit russo-ukrainien a changé la donne. Bon, il y a sans doute aussi dans la gestion des supporters les plus excités des choses à aujourd'hui à anticiper davantage. Vous savez, il y a le problème du Stade de France samedi soir, mais il y a eu le problème le lendemain à Saint-Étienne. Il y a eu depuis le début de la saison, on est bien placé pour en parler. Dans le match contre Lyon, on a eu même nous affaire à quelques voyous des deux camps, mais qui ne concernaient pas le Paris FC, qui concernaient l'autre club parisien et puis l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il est temps de s'inspirer des modèles qui ont géré le même type de problème avant nous, et notamment l'Angleterre.
Oui.
Mais en Angleterre aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de mettre des barrières, des dispositifs qui séparent les supporters. Ils sont côte à côte, il n'y a pas d'incident. Pourquoi? Soyons clairs. Parce que les sanctions individuelles sont féroces, à la fois en termes d'interdiction de stade et de passage par la casse-prison. Tant qu'on ne passera pas par là et qu'on se contentera de pointer les clubs, qui ont parfois une responsabilité, hein, je ne suis pas en train de passer à côté de nos responsabilités de dirigeants, mais tant qu'il n'y aura pas des sanctions beaucoup plus lourdes, le travail individuel des dirigeants de club ou le travail des policiers sera impossible.
D'accord.
Donc il faut renforcer les peines, très clairement, et il faut qu'elles soient appliquées par la suite, et qu'on évite que quelques dizaines ou parfois quelques centaines de voyous pollue un sport qui est un sport populaire et qui passionne les foules au bon sens du terme.
Oui, je reviens vite, puis après il faut quand même qu'on parle un petit mot quand même sur l'aspect social. Enfin, c'est vrai que c'est quand même, enfin, ça les a tombés dessus. 2800 billets, je disais, qui ont scanné ont été faux. Est-ce que si on a que des billets électroniques, vous pensez que c'est la solution?
Ben, c'est une des solutions, puisque ceux qui en avaient et qui n'étaient pas des faux billets sont rentrés à peu près normalement, sauf quand ils en ont été empêchés par ceux qui n'avaient rien à faire là, ou par les petits voyous qui
Parce qu'en plus, on rentrait dans le tunnel, mais on ne pouvait pas en sortir si les billets n'étaient pas vrais.
Moi, je pense que parmi les erreurs d'organisation, je pense que c'est là qu'il faut déléguer un peu plus clairement à la force nationale, et notamment à la Fédération Française de Football. Il aurait dû y avoir des tris bien avant l'arrivée au stade, pour éviter que des supporters sans billets, et pas simplement à des faux billets, se pointent, soit pour faire la fête
puis,
pour certains.
Il y a des Anglais qui se sont trouvés, qui avaient l'impression d'avoir acheté des billets, qui en fait étaient des billets faux.
Oui, mais il y a eu beaucoup de supporters qui avaient de vrais billets. Moi, j'en connais quelques-uns, français, pas simplement anglais, qui ne sont jamais rentrés dans le stade, qui sont arrivés au milieu de la deuxième mi-temps, qui ont loupé l'essentiel du spectacle. Donc il y a des problèmes très concrets d'organisation. Après, on verra, puisqu'il y a une enquête qui est ouverte et que tout le monde s'en mêle, comment on distingue la responsabilité des uns et des autres. Mais c'est un peu lamentable qu'à 2 ans des Jeux Olympiques, on donne l'impression.
Vous, en tant que dirigeant de club, vous demandez quoi là? Parce que ça retombe un peu sur le football.
Moi, je demande qu'il y ait des sanctions beaucoup plus sévères pour ceux qui viennent dans les stades pour semer la violence, ça c'est clair, et des sanctions individuelles, pas seulement des sanctions collectives. Des sanctions collectives, quand la responsabilité d'un club est clairement engagée, je n'ai rien contre et on est tous là pour assumer nos responsabilités. Et puis après, je demande aussi une organisation de fonctionner normalement. Il y a plein, encore une fois, de meetings au Stade de France qui n'ont jamais posé de problème, avec beaucoup plus de monde encore qu'il n'y en avait samedi.
Mais il n'y a pas forcément des
Oui, mais je crois que l'organisation européenne aurait mieux fait d'aller jusqu'au bout de la décentralisation de la gestion de cet événement.
Pierre Ferracci, vous ne pouvez pas demander, je sais pas, à vos copains, amis de la CGT, de FO, de Sudrail, de ne pas faire grève à l'occasion de France-Danemark qui va se dérouler vendredi prochain, une nouvelle grève. Est-ce que c'est, je veux dire, aujourd'hui, 21e siècle, et que c'est encore ça qu'il faut?
Bon, le mode d'action des salariés ou des agents du secteur public, puisque en l'occurrence, ça concerne la RATP. Il faut le laisser à l'appréciation des syndicats. Bon, ils sont plus à même aujourd'hui qu'avant de se pencher sur la question de la pertinence de ces modes d'action par rapport à l'opinion publique, par rapport à la population. Bon, entre nous, c'est pas ça qui est à l'origine des incidents. Très franchement.
Bien sûr. C'est vendredi prochain, donc voilà.
Oui, mais bon, il y a un match vendredi prochain. Je suis pas sûr qu'il y aura autant de perturbations que samedi. Vraiment, les causes sont à chercher à l'extérieur de ce type de mouvement. Après, chacun peut porter un avis qui le concerne sur les modalités d'action et de grève des uns et des autres, mais c'est pas le sujet des incidents qui sont déroulés au Stade de France.
Un mot quand même. Les successions à la tête de la CGT, c'est du reste celle qui s'occupe de la CGT éducation qui devrait prendre la suite en tous les cas, parce que c'est une succession un peu téléguidée. Yves Verrier aussi. Ce passage de témoin, c'est un moment important quand même dans la vie syndicale française.
Oui, d'autant je crois que dans une autre grande organisation, et il peut y avoir aussi des témoins qui soient passés à mi-mandat. Je pense notamment à la CFDT, puisque Laurent Berger l'annonce à demi-mot. Bah, c'est des renouvellements de génération. Ça fait partie, comme dans une entreprise normale, de passage de témoins normaux. Bah, il faut que... Moi, je suis parfois un petit peu inquiet par la situation du monde syndical en général, même si certains se portent mieux que d'autres. Il faut que le mouvement syndical se ressaisisse, parce que sur certains sujets, la partie va être très compliquée. On est en sortie de pandémie, on est sur le plan économique aussi à la merci de quelques incidents graves, et la crise en Ukraine est un sujet de préoccupation à la fois sur le plan économique et sur le plan social. Et puis, les filets de l'État vont petit à petit disparaître, et peut-être que ce qu'on a évité en matière de suppression d'emplois pendant des mois va peut-être être un peu plus difficile à réaliser dans les mois qui viennent. Puis il y a ce problème de pouvoir d'achat. Là, on annonce plus de 5% d'inflation sur un an. Ça commence à devenir un peu préoccupant et ça oblige les entreprises à bien réfléchir sur la façon de traiter les salariés en matière de politique salariale, que ce soit de rémunération fixe ou de rémunération...
Il faut des profils plus durs, à votre avis, ou à la tête de ces syndicats?
Moi, je pense qu'il faut des profils qui ont bien conscience que s'il n'y a pas une forme d'unité d'action des syndicats, quelles que soient leurs divergences par ailleurs sur les retraites, sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux d'emploi, ça sera compliqué pour les salariés de trouver le chemin qu'il faut. Oui. On a une dispersion syndicale qui est un sujet de préoccupation en France. Certains disent que c'est un pluralisme à la française. Moi, je pense que c'est une division à la française. Il faut au moins que ces organisations convergent et se retrouvent ensemble pour traiter des sujets extrêmement préoccupant pour les salariés.
Merci beaucoup Pierre Ferracci, parce que voilà, le football a un peu tout inspiré le temps, mais enfin, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, vous viendrez nous voir, on parle à la retraite à 65 ans, à mon avis, on a l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup en tous les cas, Pierre Ferracci, donc le patron du Paris Football Club et patron du groupe Alpha. C'est la fin du grand journal de l'Écho. Tout de suite, bien sûr, c'est Tech & Co.
Le grand journal de l'Écho sur BFM Business.